Je suis en totale recherche toujours. Je pense que c'est d'ailleurs tout l'objet de ce projet. Bienvenue sur Graphic Matter, un podcast consacré au design graphique. Je m'appelle Louise et j'ai créé Graphic Matter pendant mes études parce que je suis curieuse et que je cherche à stimuler ma créativité. Je m'intéresse aux autres et à leurs pratiques, les graphistes auteuristes, les typographes, les artistes et les éditeuristes. Je veux aussi comprendre la complexité et la richesse du métier que j'ai choisi. Alors je les interview. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses? Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité. J'ai pris une journée pour aller à Chaumont et pour rencontrer Timothée Gouraud. Eh ben, zéro regret. Artisan de l'image, graphiste passeur d'image, bricoleur de caractère, c'est l'autoportrait de Timothée avec lequel on démarre cet entretien. En quoi ces mots sont-ils représentatifs de son parcours, de son processus créatif et de sa façon de penser le graphisme? Et justement, après avoir échangé avec Timothée, j'aurais presque envie d'ajouter à sa liste « graphiste citoyen ». Parce qu'en effet, il fait le choix de travailler très ancré dans le territoire de Chaumont et dans le tissu associatif de Chaumont, où il habite, et ça, grâce à la confiance de Fabrication Maison, pour qui il travaille. Bref, Timothée, c'est une vraie personnalité graphique, et aussi quelqu'un qui a trouvé sa place, que je vous invite à découvrir ou redécouvrir dans cet épisode 37, et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Timothée.
Bonjour Louise.
Est-ce que ça va bien ce matin?
Bah écoute, ouais, grisonnant dehors, ouais. Mais avec le feu, ça va bien.
On est à Chaumont, on est chez toi. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast.
Bah merci d'être venu jusqu'ici.
Ouais, avec plaisir. Alors j'ai fait mes recherches, comme je fais toujours, parce que je connaissais ton travail, mais je me suis quand même préparée. Et donc je suis allée fouiller Instagram, je suis allée fouiller ton site web, qui en ce moment... et en travaux, mais il y avait quand même l'à propos de ton site web. Et dans le à propos de ton site web, il y avait une liste de mots, une suite de mots. Il y avait artisan de l'image, graphiste passeur d'image, designer graphique, bricoleur de caractère, illustrateur et peintre du dimanche. Et je voulais qu'on en parle, je voulais qu'on commence par ça parce que ça m'avait, ça m'a questionné et amusé à la fois. Et on peut commencer par la première chose que tu dis, c'est artisan de l'image. Moi, quand je pense à artisan, je pense au travail manuel et aussi à un certain savoir-faire. Et donc, je me demandais si c'était comme ça que tu voyais un petit peu toi aussi ton métier ou ta ou tes pratiques.
C'est vrai que ça fait beaucoup d'appellations pour une personne, mais en même temps, je pense que ça révèle un peu, une sorte d'état d'esprit un peu touche-à-tout. En tout cas, j'aime bien... avoir pas mal de pratiques, justement. Et le côté artisan, c'est un artisan de l'image, c'est un terme que j'ai mis il y a pas mal de temps déjà, mais en tout cas, c'était peut-être d'avoir une approche artisanale. Je ne sais pas si je suis vraiment un artisan au sens réel du terme, puisque nous, on n'est pas forcément dans une réelle production totale d'objets graphiques, puisque l'impression, elle est souvent quand même déléguée. Mais en tout cas, il y a effectivement cette approche de la main qui est assez présente. Et d'ailleurs, moi, je me suis toujours senti plus artisan, en tout cas, qu'artiste. Et ça me faisait penser à un texte de Dubuffet que j'ai redécouvert assez récemment, où justement, lui, il préférait au grand pâtissier parisien, il préférait plutôt le boulanger de la campagne. Et quelque chose aussi de l'ordinaire un peu plus. Et il y a ce côté-là aussi. Et peut-être aussi,
c'est un côté un peu de pas trop se prendre au sérieux.
C'est pas forcément pas au sérieux, peut-être d'être dans des choses plus modestes aussi. Et finalement aussi les échelles, on est dans des petits écosystèmes de nos projets. Et il y a justement aussi cette échelle assez locale finalement dans la plupart des projets. Là, moi, je travaille essentiellement sur le territoire de Chaumont. Et du coup, peut-être aussi à ce côté-là, dans ce côté artisanal. Mais c'est quand même vraiment une pratique de la main. Moi, je suis pas si vieux, mais je suis quand même de cette génération un peu pré-ordinateur, où en tout cas, moi, j'ai grandi au départ sans ordinateur. Même à l'école, on était quand même dans des formations où au départ, on était beaucoup encore... Il y avait des ordinateurs déjà, et on a appris les logiciels, mais on était encore dans cette pratique découpage, photocopieuse, peinture. Donc, ça a quand même aussi forgé l'apprentissage et la pratique. Et puis après, je pense aussi une sensibilité, une personnalité, où ça me plaît comme ça. Après, je disais qu'en tant que... on n'est pas vraiment artisan parce qu'on ne va pas au bout de la production, mais il y a quand même certains projets On a fait pas mal de projets d'atelier où, du coup, on va quand même jusqu'à l'impression avec les habitants et qui on travaille. Et en parallèle, moi, j'ai aussi fait un projet à Besançon avec l'association Bien Urbain, enfin, avec juste ici, dans le cadre du festival Bien Urbain. Et là, j'avais fait une série de 30 affiches de co, où, pour le coup, étaient entièrement faites à la main et qu'on avait affichées après dans la ville de Besançon. Donc, ça peut arriver quand même, finalement, qu'on soit dans la production, même jusqu'au bout, à la main. Mais en tout cas, c'est vrai que la main, elle revient des premiers croquis. Moi, je suis quand même, je réfléchis par des croquis et du dessin. Et la main intervient quand même pas mal dans l'affiche ou le support finalisé. Ben, essentiellement sur l'affiche, peut-être moins dans le livre ou de la mise en page. Mais il y a voilà, ce rapport-là qui reste là.
Et donc, tu disais que tu l'avais écrit il y a un certain temps. Mais est-ce que pour toi, c'est toujours complètement d'actualité dans ta pratique aujourd'hui?
Ce qui est assez marrant, c'est que moi, j'ai écrit ça. Et entre-temps, ça, j'ai dû l'écrire il y a une dizaine d'années, je pense. Et
donc, il y a une dizaine d'années, tu sortais d'école?
Ouais, c'est à peu près ça. Bah, le site, je l'ai fait à peu près au moment du site. Et le site, c'était à peu près à la sortie de l'école. Enfin, un petit peu après, mais... Et moi, j'ai rejoint un atelier là depuis déjà presque 10 ans aussi. S'appelle Fabrication Maison. Et donc, je pense que déjà, le nom Fabrication Maison clignote avec ce terme un peu artisan. Il y a quelque chose comme ça. Et on n'est pas loin non plus du boulanger, du buffet, de quelque chose fait à la main, fait dans la rencontre, fait...
Ouais. Et ça va aussi avec le fait que ton métier, c'est graphiste. Et c'est vraiment... Je trouve que tu fais vraiment le métier de graphiste qui implique vraiment tous les maillons de la chaîne... pour produire quelque chose, même si, comme tu dis, à la fin, l'impression, elle est peut-être déléguée. Le point de départ, c'est le travail que tu fais avec ou pour un commanditaire, dont j'ai l'impression, c'est quand même souvent... Enfin, tu es assez proche, j'en sais rien, de ce que j'ai remarqué, en tout cas dans la façon dont tu communiques ou avec et pour tes commanditaires, que c'est quand même... t'as quand même un lien avec ces gens. Et qu'ensuite, derrière, il y a toute la chaîne de réflexion dont on va parler après, de création, de production. Ensuite, ça passe par l'étape d'impression et de diffusion derrière. Et je me demandais si... Évidemment, c'est ça le métier de graphiste, mais finalement, c'est pas tous les graphistes qui touchent à toute cette chaîne de métiers. Et je me demandais si avoir cet ensemble-là, c'était important pour toi et que ça devait ou ça voulait... Enfin, tu voulais que ça fasse partie de ta pratique.
Je pense que ça se fait assez naturellement. De toute façon, c'est assez intéressant de se dire que dans un même métier, il y a quand même pas mal de façons de le pratiquer. Et du coup, sous une même appellation, il y a quand même des réalités un peu différentes. Mais c'est aussi assez vivifiant parce que ça veut dire que tu peux te construire ta propre pratique en fonction de qui tu es. Il y a peut-être déjà le fait qu'on soit une petite structure qui fait que déjà, les postes sont pas... On n'a pas un commercial... quelqu'un qui prend les appels.
Là, parles de Fabrication Maison.
Fabrication Maison et moi, parce que moi, en fait, la plupart des projets sont rattachés à Fabrication Maison, enfin même l'ensemble des projets. Et en étant une petite structure, ça fait que déjà, ça nous fait qu'on gère. Alors, j'ai une collègue qui est plutôt à l'administration et avec qui on fait les devis, par exemple, mais on les fait ensemble. Ouais. C'est moi qui rencontre les clients ou les complices de travail.
Vous êtes combien chez Fabrication
Maison ? On est 5 à Fabrication Maison. D'accord. Il y a 4 graphistes. Et une administratrice, médiatrice de projet. Okay. Et moi, je suis seul sur ce territoire-là, à Chaumont.
D'accord.
Mais donc, voilà, c'est déjà la petite structure fait qu'on couvre un peu l'ensemble des casquettes. Et après, il y a aussi un intérêt, je pense qu'après, c'est chez pas mal de graphistes, de connaître la chaîne graphique, d'aller au bout. Enfin, en tout cas, nous, on est très rattachés aux médias imprimés. Donc, il y a ce côté-là, d'être aussi en connaissance. Nous, avec l'historique un peu de l'association, il y a eu des liens assez anciens avec les arts graphiques. À Strasbourg, il y a eu certains imprimeurs qu'on connaît assez bien. Donc, on essayait d'aller, quand on peut, pas si souvent que ça, mais au calage. Et donc, pour moi, ça fait partie des outils. Et puis, dans ce côté, justement, un peu manuel, l'impression fait partie pleinement de la création. C'est intéressant de connaître ça aussi.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui peut se passer avec l'impression ? Qu'est-ce qui est important, qui fait que c'est intéressant d'être sur place ou de comprendre ou de voir comment ça se passe ?
Déjà, ça magnifie vachement. On pense, même souvent, on s'est dessiné en noir et blanc et on pense les choses pour l'impression, mais c'est plutôt un révélateur. Et après, c'est de connaître surtout les techniques pour... que ce soit la sérigraphie, et on en apprend tous les jours, parce que moi je travaille avec le Relax, et la première affiche qu'on a fait avec le Relax, on a eu un petit couac justement sur, sur l'ordre des couleurs, et des choses déjà qui m'étaient jamais apparues avant sur d'autres affiches. Et en offset, par exemple, on fait un peu les mêmes visuels pour le Relax avec le programme en offset et les affiches en sérigraphie, et tu vois que ça réagit pas du tout pareil, c'est pas du tout les mêmes techniques, c'est pas la même façon de réagir des encres. Et donc voilà, ça c'est encore des choses que tu apprends au fur et à mesure, et ça te permet de penser des images après dans une certaine économie, où avec deux couleurs, tu peux faire des choses assez folles, ou avec trois couleurs... Donc c'est quand même connaître les outils, c'est comme tu connais ton pinceau, ton stylo, et ce que tu peux faire avec, là, c'est un peu pareil.
Et cette pensée de travail que tu l'as apprise et apprivoisée à l'école, c'est parce qu'on te l'a enseigné, ou c'est toi sur le terrain où petit à petit t'es allé vers cette façon de travailler?
Un petit peu des deux, je dirais, peut-être. En tout cas, moi je parlais de cette façon un peu d'apprendre à l'école, un peu bricolé comme ça, un peu les mains dans le cambouis, donc il y avait quand même cet aspect-là. Par contre, c'est vrai que...
Ça, les écoles, c'était Dupéré et Olivier de Serres, c'est ça?
Ouais.
Donc c'est là-bas que tu avais un petit peu les mains dans le cambouis et
Oui, bah, Dupéré, en fait, c'est marrant parce que c'est une école, c'est les quatre écoles d'art appliqué de la ville de Paris, et elles ont chacune un peu une spécialité. Au niveau design graphique, on dirait que c'est plutôt Estienne.
Dupéré, c'est plutôt
la mode, voilà. Ouais. Et il s'est avéré qu'en fait, c'est une super formation à l'époque. Donc, c'était en communication visuelle, c'était un BTS.
Okay.
Et en fait, y a sans doute quand même une influence teintée de la mode, du style, du textile, qui fait qu'il y avait quand même quelque chose, pareil, très manuel, de fabrique un peu, qui a teinté ça. Et moi, après, c'est quand même aussi des enseignants. Et entre autres, moi, j'ai un enseignant qui s'appelait Hervé Aracil, qui était un peu mon maître à penser là-bas, mais qui était déjà un personnage assez atypique, qui nous a vraiment éveillé aussi à des forces visuelles, à des choses, des manières d'aborder l'image. En même temps, lui nous ponctuait un peu les cours de petits moments qui étaient presque hors sujet, mais il pouvait nous citer du Deleuze dans des cours ou des choses, mais presque comme des petits cailloux qu'il lançait comme ça, qui n'étaient pas directement reliés, mais qui nous ouvraient un peu des horizons. Et lui m'a pas mal accompagné après, justement, sur ma construction aussi de... Enfin, il avait vraiment une vision assez politique des choses. Il était très aussi dans le monde de la typo. Il est assez implanté en France.
Ouais.
Mais en tout cas, sur plus une construction, prendre en fait un engagement, quoi. Il y avait vraiment une sorte de... Il nous a aidé à développer un engagement personnel aussi, politique ou pas. Mais c'est plutôt de pouvoir se construire quelque chose et... Et donc moi, entre autres, c'est sur mon projet un peu de fin de BTS, là, où ça a été des premières amorces, justement, de réfléchir à une image un peu différente, liée à l'espace public, justement, dans certains quartiers. Donc ça a été cette amorce-là. Donc il y a eu à la fois quelque chose dans les outils assez bricolé, comme ça, et dessiner beaucoup, et en même temps, quand même au niveau de la construction et de la pensée, quelque chose d'assez fort aussi, donc, en tout cas qui ont posé un peu les jalons de ma pratique après.
Ok, et justement l'espace public, je voulais qu'on en parle, parce qu'on sent que, enfin on le voit que ton travail, sa destination c'est toujours l'espace public, c'est dans la rue. Ça c'est important que l'image elle soit diffusée par rapport au message qu'elle peut véhiculer.
C'est assez marrant parce que pour moi c'est vraiment un des fondements de ma pratique, mais je ne m'en rendais pas forcément compte que ça se voyait, donc c'est plutôt intéressant que tu le remarques.
C'est parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on produit ne va plus dans l'espace public.
Alors c'est vrai qu'on est déjà sur le média imprimé, donc forcément nous on est moins sur des choses, on fait un peu des choses... des sites forcément les images passent aussi sur les réseaux, etc. Mais en tout cas nous on travaille pas mal comme ça, donc il y a quand même cette question là qui reste assez présente. Moi on va dire assez basiquement, c'est un peu mon parcours de graphiste type, où j'étais quand même pas mal dans les cultures un peu urbaines de skate, de graffiti, donc c'est quand même des espaces que j'ai pas mal fréquentés et qui m'ont... Il y a eu tout de suite ces questions un peu de se réapproprier aussi ces espaces là et qu'est-ce qu'on fait dans ces espaces, et un peu avoir des usages qui sont pas les usages premiers de ces espaces. Si tu fais du skate à un endroit où c'est plutôt un banc, ou si tu fais du graffiti à un endroit ou un tag sur un mur, donc il y a déjà un peu ces questions là et couplé peut-être avec des questions politiques petit à petit qui sont apparues, de se dire qu'est-ce qu'on met comme image, est-ce qu'on peut mettre autre chose que ces images commerciales qui nous poussent à acheter des choses, comment on peut faire des images un peu différentes aussi, quelle est la temporalité des images qu'on produit, des signes qu'on produit.
Parce que pour toi, le graphisme, c'est faire passer un message. Enfin, c'est quoi pour toi l'utilité du graphisme ?
Et bah, il y a à la fois sur...
Et même sa responsabilité, peut-être ?
Bah, il y a à la fois justement sur les images que tu produis en elles-mêmes. Déjà, à quoi tu associes tes images, en fait ? Parce que c'est, ça peut, il y a un peu à la fois l'image en elle-même, comment tu l'abordes, comment elle s'adresse aux spectateurs qui peuvent la voir, et en même temps aussi des images pour véhiculer quoi. Et je pense que petit à petit, c'est aussi surtout s'associer, moi, à des initiatives voilà, alternatives, peut-être d'autres visions du monde. Et c'est pas... Moi, j'en arrive à peut-être pas tant produire des images qui, en soi, portent ce message, que plutôt elles s'associent à des structures qui, elles, ont des messages. Ou en tout cas, c'est pas forcément tant un message que proposer peut-être d'autres façons de faire. Et d'ailleurs, ça, moi, je travaille beaucoup avec un tiers-lieu là, à côté de Chaumont qui s'appelle Simone. On fait pas mal d'affiches pour eux. Et justement, Anne-Laure Lemaire, la directrice, me disait il n'y a pas si longtemps qu'elle, en ayant grandi dans cette région-là, quand elle découvrait des images un peu différentes, qui n'étaient pas forcément souvent le cas, ça lui faisait vraiment une bulle d'air, une bouffée d'oxygène de dire « Ah, mais en fait, il y a autre chose qui est possible. » Ça lui ouvrait des perspectives et du coup, ça passait par cette image-là. C'était à la fois l'image et le contenu de l'image, mais du coup, c'est peut-être aussi finalement ces images dire que voilà, il y a d'autres façons de faire et il y a autre chose qui est possible et en s'associant à justement ces initiatives-là sur le territoire qui proposent un peu d'autres manières de faire.
Et comment tu as fait alors petit à petit pour réussir à t'implanter dans un territoire, et notamment ici à Chaumont, de travailler avec des théâtres, avec des assos, des tiers-lieux. Tu travailles aussi pour le CIGN. Déjà, pourquoi cet endroit ? Pourquoi Chaumont ? Et puis, est-ce que ça s'est fait avec le temps ? Comment t'as fait ?
Bah, c'est tout à fait, c'est ça, c'est avec le temps. Après, c'est vraiment un peu, il y a un triple point de départ. Moi, personnellement, c'est que ma compagne, elle est professeure de design graphique. Et donc, on lui a proposé un poste dans le DSA de Chaumont. Et ça, ça a en fait résonné assez vite avec le fait que l'association Fabrication Maison, elle est à peu près née à Chaumont dans les années 90.
D'accord.
Avec mon collègue Jean-Marc Bretonnier qui a fondé l'association suite à des résidences un peu sur 2 ou 3 ans, qui étaient les premières résidences, ce qui s'appelait les silos à l'époque, enfin, qui était la maison du livre et de l'affiche avant qu'il y ait le signe.
D'accord.
Et ils ont développé des programmes comme ça de résidences longues de graphistes et Jean-Marc a initié la première. Et lui a produit un livre qui s'appelait « Pas de ville sans visage ». Et ça a été le manifeste un peu de l'association. Et donc, voilà, il y avait déjà des... Lui avait travaillé sur le territoire, il y avait des liens historiques. Ça a clignoté aussi avec le fait, bah, du coup, depuis, il y avait aussi le festival et qui est devenu, de l'affiche qui est devenu ensuite le signe. Et ensuite, encore un autre petit point qui est marrant, c'est que nous, on animait à Paris un lieu qui s'appelait « La Fabrique Saint-Blaise » dans le 20e. Et l'équipe de la politique de la ville de Chaumont, au moment où moi j'étais en passe d'arriver à Chaumont, nous a contactés sans le savoir parce qu'ils voulaient essayer de développer des choses similaires à cette fabrique dans les quartiers de Chaumont.
D'accord.
Quoi. Donc à un moment, tous les indicateurs étaient un peu au vert que c'était peut-être le bon moment.
Ouais.
Et en fait, bah, du coup, nous on est rentrés par cette case un peu politique de la ville qui est les projets du coup plus dans des quartiers prioritaires. Subventionnés, où il y a des appels à projets autour de questions sociales, et nous, on propose des projets de design ou des projets de ville là-dessus. Donc, nous, on a commencé par ce biais-là.
D'accord.
Assez vite, bah, du coup, en lien aussi avec le CIGN comme partenaire et avec des associations locales, des centres sociaux. Il y a aussi un centre de demandeurs d'asile à Chaumont qui est assez actif, qu'on a assez vite rencontré. Donc, c'est pareil, c'est devenu un partenaire assez important. Et après, moi, passer cette étape-là, bah, assez progressivement, j'avais envie de aussi essayer de rencontrer des acteurs du territoire. Et entre autres, bah, je suis allé un petit peu toquer aux portes, en fait, et envoyer des mails ou prendre contact. Okay. Et ça s'est fait, entre autres, avec ce lieu, la Simone, qui est assez important pour moi, et qui est un lieu voilà, assez intéressant.
Et, pourquoi c'est intéressant ?
Bah, déjà, en fait, c'est un lieu, enfin, une structure qui résonne pas mal avec nos pratiques à nous. Nous, on parle souvent d'être au plus près des habitants et des territoires. Et eux, ils résument ça peut-être de l'art dans la vie. Donc, en tout cas, il y a ce lien comme ça de questions artistiques et de questions de territoire. Et eux, donc, sont sur un des programmes beaucoup. C'est Anne-Laure Lemaire, elle vient du théâtre. Et donc il y a beaucoup de résidences là, d'artistes liés au théâtre, mais aussi au spectacle vivant de manière générale. Et en même temps, c'est un lieu, donc c'est un tiers-lieu, donc qui propose beaucoup de services aussi aux habitants. Okay. Depuis peu, là, il y a une cantine qui a ouvert aussi. Il y a des ateliers d'aide au numérique, il y a des tricoteuses qui viennent. Et en même temps, il y a des performances et des actions artistiques.
D'accord.
Et il y a un festival d'art en forêt, il y a des événements comme ça, de création artistique dans des petits villages. Donc c'est un lieu assez hybride et qui voilà, propose aussi des pas de côté et qui plus globalement voilà, réfléchit un peu le monde qui l'entoure. Et donc nous, et avec une vraie volonté, bah, je parlais d'Anne-Laure qui est sur ces images qui étaient des bouffées d'air pour elle. Et donc elle a quand même une attention dans une économie un peu restreinte, mais une attention à faire des images aussi qui racontent tout ça.
Okay.
Et donc nous, on a commencé à faire pas mal d'images là, avec eux.
Oui, j'avais demandé, alors votre travail et vous, il consiste en quoi pour Simone ?
Bah, progressivement, là maintenant, je travaille même sur un peu l'identité au long cours avec eux. Ouais. Mais sinon, c'était vraiment sur des affiches régulièrement au cours de l'année, sur okay. différents événements. Au départ, c'était plutôt sur les événements et l'identité était gérée un peu en parallèle de leur côté. Et là, du coup, moi, je commence aussi à leur faire des outils un peu d'identité.
Okay.
Donc, c'est un peu un travail au long cours. Et puis, ce qui est super intéressant, c'est que comme c'est un tiers-lieu, bah, en mm-hmm. fait, c'est un lieu assez hybride où il se passe beaucoup de choses et où il y a toujours des nouvelles initiatives. Ouais. Donc, en fait, il y a plein de projets, plein de sujets à questionner. Et moi, ça me fait aussi... Moi, je dis que j'aime mettre un peu touche à tout. Et finalement, mm-hmm. c'est aussi un peu une sorte de grand laboratoire de forme, mais toujours avec cette idée bah, de forme dans ce territoire aussi où on est. Et moi, c'est peut-être ça les questions qui m'intéressaient aussi, mm-hmm. de produire des images bah, à la fois qui soient... originale, intéressante, enfin, qui questionne le sujet et en même temps comment bah, on peut peut-être être sur une main tendue par rapport aux habitants, comment on est dans un équilibre entre bah, revendiquer qu'on fait aussi des choses un peu différemment et qu'on propose aussi autre mmh. chose par rapport au lieu et donc aussi dans les images, et en même temps bah, comment on essaie de trouver des formes, des supports, des outils qui soient quand même connectés aux okay. habitants.
Du coup là, le territoire, est-ce qu'il devient une source d'inspiration pour le travail à produire ?
Ouais, ouais,
ou,
bah en partie.
Ou même une source de matière ?
Oui, oui, carrément. Bah, surtout que, voilà, c'est beaucoup d'événements. Là, il y a eu la belle nuit, le beau jour, c'est des fêtes sur une journée ou sur une soirée. Ouais. La belle nuit, par exemple, c'était 7 spectacles en parallèle dans 7 villages autour de Simone. Et qui prenaient lieu dans une serre, dans un hangar, et donc là, bah, c'était aussi de se dire bah, dans quelle ambiance un peu, enfin de projeter un peu l'ambiance qu'il pouvait y avoir de fin de soirée mmh. comme ça, les pieds dans les champs, ou voilà, toute la matière un peu forcément, traduction un peu visuelle des paysages environnants, de mmh. quelque chose un peu autour de ça, ouais, ouais.
Et donc tu nous disais que tu passais presque toujours par l'illustration quand tu dois produire quelque chose, travailler sur un projet. Justement, est-ce que tu peux nous expliquer ton processus créatif ? Alors, je ne sais pas sur quel projet en particulier, peut-être tu as en tête une affiche ou un projet sur lequel tu peux nous décrire ta manière de travailler et
ouais,
de réfléchir.
Ben je ne dirais pas forcément l'illustration, mais en tout cas, c'est plutôt le travail manuel, le dessin,
d'accord,
mais pas forcément
pardon.
L'idée mm-hmm. d'illustration, mais plutôt de dessiner,
oui, de dessin.
Que ce soit
oui, oui,
ça,
oui.
qui est une part dessinée en tout cas, mais qui peut même être sur des mots, sur de la lettre.
D'accord.
Bah, en tout cas, ça se recoupe toujours un peu, mais c'est vrai qu'il y a un peu deux approches en fonction des gens avec qui on travaille,
ouais.
dans le sens si justement il y a plusieurs acteurs locaux qui sont quand même plutôt des complices, mm-hmm. je sais pas si c'est des amis, mais en tout cas voilà, on a quand même des complices de travail, et avec eux bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont plus vite, et avec d'autres qu'on connaît moins il y a peut-être plus de phases de recherche dessinée, mais en tout cas ça commence toujours par de la rencontre,
ouais.
et par des échanges et des mots. Parce que les mots, ben en fait, c'est déjà des images souvent, et ça permet mmh. aussi des images. Mais c'est vraiment d'établir une sorte de cahier des charges partagé qui peut se réduire peut-être à une ou deux phrases de synthèse au final, mais qui permet vraiment de se comprendre.
Okay.
Et peut-être aussi partager des objets, soit qu'on a pu déjà produire, soit peut-être même certaines références qu'on
d'accord.
peut... Pour essayer aussi de voir où en sont... Enfin, voilà. Trouver un
okay.
peu, apprendre à se connaître. Donc, mm-hmm. bah, c'est sûr que les gens avec qui on travaille depuis longtemps, bah, on se connaît déjà, donc on sait un peu
oui.
l'état d'esprit.
Okay.
Et puis après, bah, en fonction, c'est quand même pas mal de phases de dessin, de croquis.
Il y a une idée d'abord ou il y a du dessin d'abord ?
Bah, y a souvent des choses en rebond, c'est que les mots déjà qu'on va discuter, ça donne déjà des pistes. Et en même temps, là-dessus se rajoute une part fonctionnelle. C'est que tout de suite, tu as des contraintes de. Bah, l'identité doit être gérée en autonomie par l'équipe ensuite. On sait qu'on va imprimer un programme et puis une affiche. Ah bah tiens, comment ça. On peut produire quelque chose qui passerait de l'un à l'autre, mais comment ça peut être aussi un peu différent? Comment on peut proposer des outils, mais certains qui seront propres à la fiche que je vais faire, mais d'autres qui peuvent être réutilisés pour ensuite l'équipe en interne. Donc, en fait, entre ces mots qui amènent à des intuitions ou dans les deux sens, plus ces contraintes fonctionnelles, bah, ça fait que tu réfléchis un peu en ping-pong dans différents sens. Voilà, bah, si tu vas faire des affiches aussi plus petit format ou si c'est des deco, c'est pas pareil. Et ensuite, donc voilà, des fois la phase de croquis elle est pas si forte parce que bon, ça dépend aussi déjà des budgets, peut-être un peu, mais aussi voilà, de cette complicité qu'on peut avoir avec d'autres. Bah, on va ouvrir plus le champ. C'est vrai que je pense qu'au départ, quand je commence une nouvelle relation avec un nouveau client, on va dire, c'est plus fort et après ça se fait un peu plus vite. Mais en tout cas, voilà, c'est cette part de mots, cette part de contraintes un peu fonctionnelles, cette phase de dessin. Puis après, ben, on commence à esquisser des choses en récupérant aussi des vrais contenus pour commencer à voir comment ça peut fonctionner. Puis des allers-retours après, comme ça.
Et il y a la couleur aussi qui intervient beaucoup dans ton travail. Et puis la casquette que tu écris toi-même, bricoleur des caractères. Est-ce que c'est à ce moment-là, quand tu composes une affiche par exemple, que tu viens bricoler les caractères? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même toujours des choix assez forts de typographie, de caractères que tu allais chercher chez des fonderies, chez des typographes. Et donc je me demandais si c'est ça qui a inclué bricoleur de caractères, c'est d'aller piocher, utiliser, transformer
Pas vraiment en fait.
et...
Parce que, par contre, du coup, bah, je parlais d'Hervé Arassi, le professeur à Dupéré, lui nous a quand même vraiment éveillé à la question typographique et à des projets vraiment de création typographique pertinents et intéressants. Donc voilà, je pense qu'il nous a quand même entre autres bien ouvert l'esprit là-dessus. Après, moi, j'ai eu quand même assez vite un intérêt pour ça aussi. Et le côté bricoleur de caractère, je mettais bricoleur parce que c'était plutôt moi sur le. J'ai, comme pas mal de graphistes, fait pas mal, on va dire, de safari typographique à récupérer des photos de sources. Et entre autres, quand je suis arrivé à Chaumont, j'ai dans plein de petits villages d'anciens murs peints, de panneaux et tout ça. Et donc, c'est plutôt moi là qui me suis amusé à dessiner des lettrages.
Donc ça
Et
parle vraiment de toi et
voilà, là,
ton
c'était plus,
rapport.
mais je le mettais avec modestie, bricoleur parce que. Justement, j'ai quand même une vision du dessin de caractère hein, peut-être un peu plus complexe que juste dessiner des petits lettrages comme ça, mais en même temps, voilà, il y avait un plaisir aussi de dessiner ces lettres comme ça. Mais après, du coup, moi, j'ai quand même voilà, une attention. Je pense que moi, là, une attention, puis il y a une tension qui se fait justement entre des formes peut-être plus dessinées, plus maladroites, et une structure assez typographique. Et j'aime bien souvent le contraste de ces éléments-là, et peut-être un rapport comme ça entre quelque chose de la fonction, de l'information, et quelque chose de plus dessiné.
Et quand tu fais ces choix de structure
Et après, bah, c'est
typographique?
vraiment, on en revient toujours un peu à cette question fonction-narration. C'est qu'à la fois, bah, tu as des contraintes fonctionnelles qui, bah, si tu fais de la signalétique, si c'est une affiche, si c'est un livre, si c'est un petit journal, si c'est juste pour un édito, bah, forcément, ce ne sera pas les mêmes lectures. Donc ça va déjà t'aiguiller un peu. Et puis ensuite, bah, c'est sur ce que tu as envie de raconter. Alors, soit un caractère peut résonner, même un petit peu de manière anecdotique, mais ça peut faire une porte d'entrée. Là, on a fait l'identité d'un petit projet qui s'appelle Caravelle. Et donc, nous, on est parti du caractère bourrasque. Donc, il y avait cette question du vent aussi, ça résonnait un peu. Et en fait, au-delà de ça, bah, c'est un caractère qui est très penché et qui est assez
Je l'ai en
atypique,
tête.
justement, pour, par exemple, en termes de fonction, pour une identité. Bah, c'est déjà un caractère atypique, donc ça peut fonctionner. Et nous, ça nous a permis, après, un jeu visuel. De manière anecdotique, c'était un peu marrant parce que ça clignotait dans le nom, mais finalement, c'était pas pour rien aussi. Ça a amené des choses dans le mouvement qui étaient intéressantes par rapport au projet. Donc, c'est un aller-retour après, voilà, entre des questions pratiques, on va dire, et puis de ce que. Et puis après, le ton aussi, bah, les caractères ont quand même une sorte de tonalité et dégagent quelque chose. Et puis, bah, un caractère d'affiche va pas forcément être le même qu'un caractère de livre. Et voilà, c'est un peu. un aller-retour. Et moi, j'ai un peu une veille active comme ça, parce que ça m'intéresse, donc de suivre des fonderies, de voir des caractères, des choses qui se passent. Et puis, j'ai un peu tout ça dans un coin de ma tête. Et en fonction des projets, ça se réactive. Et puis, j'aime bien l'idée aussi de travailler avec des caractères plutôt souvent français, un peu. Et voire même, nous, en fait, il y a quand même un lien un peu historique aussi de l'association avec différents dessinateurs de caractères.
Comme qui?
Et du coup, il y a Thomas Yomarchand, il y a David Poulard, Pierre Dichoulot qui ont prêté des caractères à Fabrication Maison, d'accord, des caractères qui n'étaient même pas forcément diffusés pour des projets précis, certains projets liés au territoire, pour des petites identités. Et il y a un lien comme ça qui était déjà assez fort finalement. Et ce qui nous a amené aussi justement après à produire des projets. Et on est du coup assez en lien avec Thomas Huot-Marchand, qui est le directeur de la NRT.
D'accord.
Et donc ça nous a amené aussi au Chaumont Script, entre autres. Ouais.
Si on va en parler. On va en parler. Mais avant de parler du Chaumont Script, je voulais qu'on parle des personnes qui t'ont, au-delà de l'école, et des professeurs qui t'ont marqué, parce que tu en parles dans un post sur Insta. Tu remercies en l'occurrence les gens qui ont bercé et formé ton œil d'apprenti graphiste. C'est toi qui le dis comme ça. Et donc je me demandais qui c'était ces personnes qui t'ont formé, qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré.
Bah, c'est à peu près cette période dont je parlais du BTS et du Perret, où moi il y a eu la découverte entre autres du travail de Malte Martin, et ça a été vraiment un peu une porte ouverte, ça m'a ouvert un peu l'esprit sur...
Comment tu l'as découvert son travail ?
Je sais pas si... De toute façon j'étais déjà à Paris à Dupéré, donc c'était un moment où il était quand même assez actif sur différents théâtres, etc. Donc je pense que il avait sa renommée, donc je connaissais j'avais vu son travail un peu, mais je sais pas exactement comment, peut-être en fouillant un peu sur internet ou autre, où j'ai découvert surtout toute la partie qu'il avait à côté de son travail sur les théâtres justement. Et ça a été un peu une révélation de rendre possible mes questionnements en images et dans une pratique, et de voir lui ce qu'il faisait. Il travaillait dans pas mal de quartiers, sur les mots publics aussi, à Saint-Blaise, justement dans le même quartier. Il a travaillé sur le boulevard Magenta. Et tout d'un coup, ces questions-là, aussi de la pratique du design graphique, mais pour autre chose que même informer ou vendre quelque chose. Mais tout d'un coup, ça devient un médium pour questionner la société, créer du lien, s'installer justement dans l'espace public. Et donc là, ça a été assez révélateur. Et tout ça dans une forme assez typographique, assez forte. Et il y a peut-être ce côté-là qui m'a intéressé aussi, de voir des graphismes, même si j'ai une part assez dessinée et que des choses de l'héritage mai 68, etc. m'intéressent. Il y avait aussi chez ces graphistes-là une approche un peu différente, même dans la forme. Il y a Vincent Perrottet aussi, justement, qui était très politique et issu de Grappus et autres.
Oui, mais qui avait aussi dans Grappus, du coup.
Ouais, c'est ça. Mais lui, dans sa forme, Vincent Perrottet, je trouvais qu'il avait aussi quelque chose déjà de plus typographique, de plus construit dans ses images, de la présence photographique. Donc, il y avait des choses aussi qui, entre le fond et la forme, qui clignotaient assez fortement. Et il y avait aussi à une époque pas mal Stefan Zagmeister, qui est un Autrichien qui travaille aux États-Unis. Et lui, il avait plutôt un côté, c'était le décalage qui m'intéressait entre des formes assez, justement, un peu craft, enfin un peu manuel et bricolé, mais lui en travaillant pour des sujets assez commerciaux. Et donc il y avait aussi ce côté-là de se dire, tiens, un côté un peu grand public, moi, qui m'intéressait, en tout cas initialement, même si c'est dur au fur et à mesure d'être pas du graphiste pour les graphistes, mais de se dire, tiens, comment on peut parler, parce que je pense que c'est à la base mon milieu, que je suis plutôt dans un milieu où il n'y a pas forcément tant d'images que ça, et donc c'est des questions qui m'intéressent, même si en étant plus t'es dans la pratique, plus c'est dur d'avoir un recul dessus, mais voilà, donc Zagmeister, entre autres, pouvait répondre aussi à ces questions-là. Mais après, ça a été un peu tous les graphistes qui ont pu travailler justement sur ces questions d'espace public, de David Poulard aussi, Pierre Dichoulot, des gens qui avaient des pratiques un peu décalées tout en ayant ces outils du design graphique. Et ça a mis des possibles du coup sur des intuitions que j'avais. Et voilà,
T'as fait des stages ou t'as eu des expériences dans des structures qui ont...
C'est marrant parce que justement, quand je parlais tout à l'heure, côté un peu une tension entre quelque chose de très dessiné une approche typographique. Moi, j'ai fait plusieurs stages, mais j'ai fait un stage après mon DSA dans le studio maquette et mise en page,
d'accord,
qui est devenu après Spassky Fisher.
D'accord.
Et c'est moi, je suis arrivé au moment où il s'était en train de changer, où c'était Perrine Saint-Martin, entre autres, qui est enseignante maintenant à Pau, qui était dans ce studio-là et qui a fait venir après Thomas Petitjean. Et après, l'équipe okay. a changé et s'est reconstruite autour de Thomas Petitjean. Et donc, moi, j'ai vécu un okay. peu ce moment-là. Et en tout cas,
j'aurais pas forcément rattaché ton travail.
Ouais, mais du coup, pour moi, justement, c'est. Ouais, non, mais en tout cas, eux, c'était un studio très sur le livre. Bah, ça s'appelait ouais. Maquette et mise ouais. en page en clin d'œil, mais ils faisaient beaucoup, justement, d'édition. C'était vraiment de la macro-typo. Okay. Et tu vois aussi le goût un peu. Enfin. J'avais ce goût pour la typo, mais c'est aussi quelque chose que j'ai pu affiner là-bas. Mmh. Et donc, il y a vraiment ce travail-là très typo, très... assez un peu suisse,
ouais,
presque aussi,
dire un peu suisse, carrément,
qui est quand même
ouais.
quelque chose qui m'interpelle mm-hmm. et qui a participé à ma construction. C'est okay. quand même des outils et quelque chose que
ouais, tu
voilà.
sais que c'est là et que
ouais c'est okay. ça. Ça fait quand même partie moi de mon ADN. Et en même temps, après ça, justement suite à des diplômes plutôt autour de questions militantes et autres, je me voyais pas rester toute ma vie à maquette et mise en page. D'accord. Et donc après, j'ai fait un peu de stage, un peu de freelance avec eux. Puis ensuite, après, je suis parti en volontariat en Turquie dans une association qui faisait de l'art avec des jeunes là-bas et un peu toutes les formes, art un peu plastique, okay. on a fait des fresques, on a fait de la sérigraphie et autres. Et donc là, pour le coup, c'était moins théorique, mais c'était mm-hmm. par rapport à mes questionnements d'engagement, de diplôme, mais c'était peut-être plus concret de mettre déjà un pied à l'étrier, okay. de se dire tiens, on peut faire des choses. Et finalement, tu vois, c'est un peu ce grand écart entre maquette et mise en page ouais. et un volontariat en Turquie, mais je trouve que ça ouais. résume un peu.
Et donc, c'est quand tu rentres de Turquie que tu commences à travailler avec fabrication maison.
Et ben là, moi, je me dis quand même, je veux pas faire des pubs pour des aspirateurs, faire de la com. j'ai vraiment envie de faire, de quelque chose, justement lié à une sorte d'utilité de ouais. ma pratique. Et en même temps, il y a pas tant de studios qui étaient établis et c'était un peu des studios renommés, moi qui pouvaient me faire peut-être un peu peur aussi.
Ouais.
Et finalement, je me suis dit, je vais contacter d'abord les villes, essayer de me dire, tiens, je fais une sorte de graphisme municipal comme ça, presque peut-être trouver un emploi dans une mmh. ville. Bah, finalement, j'ai envoyé des candidatures spontanées, mais comme les gens n'avaient pas besoin, ça n'a pas abouti. Donc, je me suis dit que j'allais faire du freelance et essayer de développer. Donc, j'ai pris pas mal de contacts avec des associations de okay. tout ordre, un peu écologiques ou autres. Et pendant que j'étais dans cette phase-là, qui était quand même un peu laborieuse, mais bon, c'était aussi le démarrage. Hein, c'était ouais. vraiment les premiers mois, un peu après mon retour. Et on m'a aiguillé vers... En fait, il y avait une annonce de fabrication maison qui recherchait vraiment un poste comme ça de passeur okay. d'images dans ce quartier de Saint-Blaise. Et en fait, sa fabrication maison recoupait tous ces intérêts-là, un peu du graphisme dans la ville, de l'espace public, de mettre du sens et du lien dans la pratique. Et donc, en fait, je suis rentré comme ça à fabrication maison.
Alors, quand est-ce que tu as considéré que tu n'étais plus un apprenti et que ça y est, tu savais faire et que...
Je crois que je me considère encore apprenti.
Okay.
Je pense qu'en fait, on est quand même toujours en formation un peu au long cours. Après, il y a quand même eu un petit passage avec l'arrivée à Chaumont où moi, j'ai pris de l'autonomie par rapport à fabrication maison, en étant seul sur ce territoire-là, même si on a fait des projets en lien avec mes collègues aussi sur Chaumont et autres. Et voilà, et là, depuis quelques années, qu'il y a pas mal de projets qui sont développés, que j'ai fait pas mal de choses, je sens quand même que je me sens à la fois quand même en apprentissage encore et en formation, et en même temps, je sens qu'il y a quand même des étapes. On va dire que Chaumont, peut-être symboliquement, a été un peu une étape à ce niveau-là. Ouais.
Ok. Et alors, il y a aussi écrit dans ton à propos, graphiste passeur d'images. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est vraiment un terme qui est développé. En fait, fabrication maison développe une sorte de laboratoire appelé passage en images.
D'accord.
Il y a vraiment la pratique quand même de fabrication maison, c'est vraiment autour de la création d'images collectives et vraiment de se dire tiens, prenons des images qui existent. Et à Chaumont, par exemple, ça peut être de prendre des affiches du fond d'affiches de Chaumont, de les regarder, de les redessiner avec des groupes d'habitants et à partir de ça, de se dire tiens, mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'en pense. et comment moi je pourrais raconter quelque chose aussi de la même manière. Et donc il y a vraiment quelque chose autour de la circulation des images et comment à partir d'images préexistantes on peut aussi en produire des nouvelles collectivement, en groupe, et penser collectivement aussi les signes à arriver à une affiche ensemble. Donc il y a comme, quelque chose comme ça, voilà, de passer des images, et après c'est au-delà du processus d'atelier, c'est de travailler à des images qu'on partage, qu'on recrée ensemble et qu'on rediffuse. Donc c'est le côté passeur d'images, c'est vraiment un terme autour de ça, et associé à d'autres passeurs dans même d'autres domaines aussi, sur la vidéo, tout ça, il y a des choses qui étaient déjà appelées comme ça.
Ok. Et alors l'économie de tout ça, comment tu l'as apprise, comment tu l'as gérée, comment est-ce que ça fonctionne pour toi aujourd'hui, parce que j'imagine que travailler pour le milieu associatif, c'est pas toujours facile, enfin c'est pas là où... Donc, comment tu fonctionnes, toi, dans ton
économie ? Elle est à la fois modeste, vivifiante, elle est assumée aussi. En tout cas, déjà, moi, ce qui est intéressant, c'est que je suis salarié de Fabrication Maison.
D'accord.
Donc, même si je suis un salarié un peu atypique, parce que je suis très autonome, je n'ai pas de chef, je n'ai pas vraiment de compte à rendre, mais en tout cas, j'ai quand même un salaire.
Et, donc, ça
amène
les
projets que... Ouais, il y a une stabilité
une
là-dedans.
Une certaine stabilité.
Et les projets quand même que je produis, du coup, l'économie de ces projets alimente Fabrication Maison.
D'accord.
Et qui me redistribue une partie de ça.
D'accord.
Ensuite, après, c'est vrai que c'est une construction. Après, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a toujours Fabrication Maison, c'est vraiment axé sur une double casquette comme ça, de pratiques collectives et associatives et de projets, du coup, subventionnés.
Okay.
Et une pratique plus de prestations. Et
d'accord.
Souvent, les deux se recoupent. Hein. Ça peut être en partie avec les mêmes acteurs. Ou, voilà.
Okay.
Mais donc, du coup, déjà, ça fait deux entrées différentes, puisque les projets subventionnés, ça fait aussi un... Même si c'est...
J'allais dire, est-ce que les sujets subventionnés, c'est une bonne chose qu'ils le soient ? Enfin, je veux dire, ça permet que derrière, les choses puissent être viables ?
En tout cas, ouais, ça permet en tout cas là sur des, c'est surtout sur des appels à projets spécifiques, donc du coup ça permet quand même c'est de l'argent public qui permet de financer des choses qu'on pense utiles pour la société, quoi. Donc c'est travailler dans certains quartiers, dans certains villages, dans certaines où il y a différentes problématiques, et après ça fait pas rouler sur l'or, mais en tout cas ça permet quand même de vivre tout en faisant des choses qui semblent utiles aussi, donc et qui fait une porte d'entrée parallèle à une porte plus de prestations, donc ça c'est vrai que c'est quand même assez intéressant. Après, en fait, c'est plutôt une multiplication de petites choses qui fait que du coup on arrive au bout. Voilà, après moi, en toute franchise, je suis plutôt proche du SMIC. Après moi, je travaille que 4 jours par semaine.
D'accord.
Et entre autres, c'est déjà des intérêts un peu que j'avais, mais c'est vrai qu'avec moi j'ai 2 enfants, et donc pour l'instant je trouve que c'est aussi important d'avoir du temps avec eux, voilà, même si ma pratique m'intéresse beaucoup et j'y consacre pas mal de temps, mais ça fait aussi un équilibre, donc l'économie aussi plus réduite par un temps de travail réduit. Après moi, ce qui est intéressant, c'est que même au sein de Fabrication Maison, on essaye de tirer tout ça vers le haut, et voilà, et moi progressivement, il y a plus de projets aussi, plus de choses qui se passent, et donc ça améliore un petit peu tout ça. Donc, mais c'est aussi un des choix, enfin il y a aussi une liberté, moi, justement dans ma pratique. J'étais en poste à Paris, c'est moi qui ai finalement, par un peu ma vie personnelle et autres, amené ce mouvement vers Chaumont. J'étais totalement soutenu par Fabrication Maison, et on a essayé de créer collectivement les possibilités de travailler sur place. Donc, il y a d'autres manières aussi d'être rétribué.
Oui, bien sûr,
Et puis après, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même aussi peut-être d'avoir un recul un peu, alors c'est encore personnel et familial, mais moi, ma compagne, qui est aussi enseignante, professeure, du coup, elle a aussi un salaire qui est plus conséquent que le mien, et c'est aussi du coup un équilibre global. Donc c'est aussi intéressant de le savoir, et... Je sais que Vincent Perrottet, justement, avait fait un manifeste un peu, moi, qui m'avait assez intéressé et marqué sur le fait de dire qu'on a toujours le choix. Et moi, j'ai toujours fait ce choix-là, justement, de dire, moi, j'ai pas envie de vendre, de faire du graphisme commercial ou de faire des images, de la publicité. Et donc, j'ai toujours fait en sorte de pas aller vers ça et d'aller vers des champs qui m'intéressaient. Mais en même temps, Vincent Perrottet, il avait aussi il a sa compagne qui est fonctionnaire et qui équilibrait aussi ce budget-là, et moi j'ai l'impression d'être dans cette logique-là, de se dire, et c'est bien aussi d'en parler, de le reconnaître, puisque ça fait partie de cet équilibre-là.
Et est-ce qu'il y a eu des fois où ce choix que tu as fait, il a été difficile Parce qu'il y a eu des moments difficiles, des moments de doute, des moments de...
Bah, surtout au début, quand, suite à mon retour de Turquie, où là j'ai eu des mois un peu laborieux. Après, j'avais commencé à trouver un petit emploi dans une librairie Artazar, là, à Paris. Okay. Et voilà, bon, qui était relié à ce que je faisais, mais c'était pas forcément, tu te dis, bah, tu fais des études pour finalement faire du petit boulot à côté, ça, voilà, mais ça n'a pas duré très très longtemps, et à partir du moment où il y a eu fabrication maison, bah, en tout cas, ça donnait une stabilité. Après, il n'y a jamais eu de doute ou de regret, c'est plutôt de se dire, effectivement, bah, quand tu te compares des fois même en termes financiers par rapport à des gens du même niveau scolaire ou autre, ou je sais pas, où tu te dis, bah, c'est vrai que ça pourrait être intéressant de gagner un petit peu plus d'argent, ou de, voilà, de, mais bah, c'est aussi après des choix de vie. Moi, à Chaumont, la vie, elle est aussi moins chère. Enfin, y a quand même des choses, faut réfléchir un peu globalement aussi.
Ok, donc là, en ce moment, là où t'es bien. Voilà, dans ton travail, dans le lieu où tu travailles.
Y a quand même un bel écosystème là à Chaumont, et c'est assez marrant parce que tu peux te dire que c'est un endroit où, enfin, on n'est pas dans une grande ville, où ça peut être un peu pauvre en travail peut-être, et en même temps, bah, du coup, ça resserre assez fortement les liens entre les différents acteurs du territoire. Mm-hmm. Et donc, bah, finalement, moi, je commence à avoir un réseau assez intéressant. Dans ce lieu de Simone, il y a d'autres artistes qui viennent. Donc, je travaille avec une compagnie de théâtre de Clermont-Ferrand que j'ai rencontré à Simone, justement. Donc, ça fait tout un réseau. Donc, moi, je n'ai pas trop le temps de m'ennuyer, en fait, ici.
Ok. Et les visuels, là, j'ai une question qui me vient. Les visuels que tu fais... tu les fais tout seul ou c'est en équipe avec d'autres gens de fabrication maison ?
Sur les affiches, là, et autres qu'on fait, ben c'est plutôt du travail seul, d'accord, avec un regard de l'équipe. Mais c'est plutôt moi qui porte ça.
C'est pas forcément une collaboration à chaque projet.
On est plutôt sur... on sait jamais trop bien comment on se nomme exactement. Je suis pas sûr qu'on soit tout à fait un collectif, mais on parlait aussi de compagnie d'art graphique. Y a un côté coopérative un peu aussi. Et en fait, au-delà des 5 membres un peu permanents de fabrication maison, il y a aussi toute une galaxie un peu d'écrivains, de photographes, d'accord, de paysagistes qui viennent aussi ponctuellement sur des projets. Donc il y a déjà cette manière de travailler un petit peu au coup par coup, avec des associations qui se recréent entre l'un et l'autre. Et donc, certains projets qu'on fait plus collectivement, certains, que ce soit à Chaumont ou ailleurs. Et puis, il y a quand même un essentiel des projets qui se fait plus seul avec ce regard fabrication maison, en sachant que c'est aussi lié un petit peu à l'économie, puisque c'est quand même des projets plutôt modestes. Donc, ça permet pas forcément non plus d'être tous ensemble dessus. Oui.
Ok. Revenons sur le bricoleur de caractère pour parler du Chaumont Script. Donc c'est un projet il y a quelques années, c'est une typo que tu as créée en collaboration, c'est de la collaboration avec Alexandre Bassi et Chantal Jacquet, à partir d'une typo qui existait dans la rue, et qui avait justement, il y a des années, été peint par Chantal Jacquet, et que vous avez décidé de digitaliser et de lui donner vie.
Je trouve que ce projet, il est bien à une sorte de croisement, justement, que j'aime bien. Et c'est effectivement, en arrivant moi sur Chaumont, j'avais repéré plein de panneaux qui étaient entièrement peints à la main, et c'était peut-être l'avantage d'une ville comme ça à Chaumont, où tant que ces panneaux étaient en état, ils n'avaient pas été changés. Et donc c'était des panneaux pour des parkings, pour la piscine, pour beaucoup de signalétique comme ça un peu municipale. Et donc moi j'avais repéré ces formes-là qui étaient c'était entièrement peint à la main, c'était des formes assez typiques de peintre en lettres, et en même temps avec certaines lettres qui étaient assez atypiques. Moi j'ai commencé à enquêter là-dessus plus par intérêt personnel, donc à collecter des images de ces panneaux, et puis ensuite à essayer de me dire, mais j'aimerais bien quand même, j'y crois pas trop, mais j'aimerais bien trouver l'auteur de ces signes. Et en farfouillant en ville, finalement je me suis retrouvé aux ateliers municipaux, personne n'était trop au courant, et finalement il y a quelqu'un d'un des bureaux qui m'a dit, ah mais si, mais moi dans mon village il y a une dame qui fait ça, et il s'avérait que c'était Chantal Jacquet, qu'elle était tout à fait vivante.
C'est pas loin d'ici ?
C'est à 20 minutes d'ici, c'est ça, c'est quelqu'un du coin, et qui est très généreuse, et qui a la pêche, et qui était, en fait quand je l'ai appelée, elle m'a dit, ah bah oui, viens, moi j'ai du temps, viens me rencontrer. Donc voilà, moi j'ai commencé à la rencontrer comme ça en amont. Et puis bah, très vite, je me disais...
Du coup, elle était peintre en lettres, c'était
elle,
son
elle
métier.
Était peintre en lettres, elle avait fait une formation plutôt aux Beaux-Arts de Troyes, plus un petit peu artistique, générale.
Ouais.
Et elle a trouvé un petit boulot dans des grands magasins à Troyes pour faire un peu la signalétique,
oui,
à
ça.
L'intérieur. Les, toutes
les camions aussi.
Bah, après ça, elle l'a fait après, mais au départ, c'était même vraiment, tu sais, les prix, les trucs de promo, les machins qui, à l'époque, étaient tout faits à la main, comme ça. Elle a appris un peu sur le tas avec un peintre en lettres de la maison mère, un peu de ces grands magasins-là.
D'accord.
Et du coup, à partir de ça, elle s'est établie, pas tout de suite, mais après à Chaumont. Et donc, elle a travaillé là beaucoup. Donc, effectivement, là, après, elle a fait à l'époque des camions. Elle était aussi en contrat avec Avenir Publicité, qui était l'annonceur. Et donc, même les panneaux 4x3 pour des magasins locaux et tout ça, donc ce qu'ils appelaient des 12 mètres carrés, étaient entièrement peints. C'était des choses pour je sais pas, c'était pas Darty, mais il y a Mammouth. Même il y a encore un panneau Speedy ici, où c'est des grands panneaux complètement peints. Donc, elle reproduisait le logo à la main et elle écrivait les infos là-dessus. Mais moi, ce que j'avais surtout vu, c'était plutôt tous ces petits panneaux municipaux qui étaient du coup aussi avec une forme spécifique.
Qu'est-ce qu'il y avait de particularité?
Ben, elle appelle ça donc la lettre à l'arraché. Donc là, c'est vraiment ce modèle un peu, ce qu'on appelle casual letters en anglais. C'est vraiment ces lettres comme ça, où d'un coup de pinceau, c'est single stroke, c'est d'un seul coup de pinceau, ça te dessine la forme de la lettre. Et après, là, ben, c'était juste, je pense, lié à ça. Déjà, elle peint de bas en haut, ce qui est l'inverse de beaucoup de peintres en lettres qui partent du haut pour aller vers le bas, plus logiquement.
Ouais.
Donc elle, ça faisait quelque chose qui était très stabilisé sur le bas et qui dansait plus sur le haut. Et elle avait des formes après sur des R, des B, des boucles, des choses qui étaient... qui était plus original que les modèles plus habituels. Et moi, donc j'avais tout ça un peu en stock, et avec cette envie de faire quelque chose autour de ce caractère. Et puis, ce genre de caractère n'existe pas tant que ça. Enfin, il y en a un petit peu, mais c'est pas très courant.
Sa personnalité.
Et en fait, bah, nous, comme on propose justement dans les cadres de projets de politique de la ville des projets, c'est la ville qui nous avait contacté pour un quartier de Chaumont où il y avait tout un ancien centre commercial, et avec l'idée d'occuper tous ces murs, il y a une centaine de mètres de murs. Et donc nous, on a proposé de faire un journal mural. Et je me suis dit, ce serait l'occasion, en fait, et on va faire une sorte de grande mise en page, mais qui sera assez contrastée entre des grands mots qui peuvent être directement peints, et puis des panneaux où là, on n'a plus des témoignages, des habitants, des choses, où là, on pourrait presque, du coup, avoir le même caractère s'il était numérisé. On pourrait retrouver le même caractère à la fois typographié et en même temps sur le mur. Et donc, avec cette idée-là, nous, on a contacté Thomas à la NRT. Pour numériser le cas, puisque nous, on était en lien avec lui, avec Thomas Huot-Marchand. Et après, lui a dit « Ah, super !» et tout. Je pense que c'est des questions aussi qui l'intéressent.
Ouais.
Et a proposé à des étudiants. Et donc, il y a deux étudiants au départ, puis finalement un seul après, qui était Alexandre Bassi. Et donc, c'est vraiment lui, après, qui a dessiné concrètement le caractère.
Okay.
Moi, j'étais plutôt vraiment au démarrage et sur toutes les sources. Et puis après, on a fait pas mal d'allers-retours sur le dessin avec Alexandre. Mais c'est lui qui a ensuite vraiment numérisé ce caractère-là. Avec côté assez un peu marrant aussi, où c'est un caractère qui a un côté un peu ancien. Et en même temps, ça nécessite des technologies assez contemporaines dans le dessin de caractère pour... permet toutes les ligatures entre les lettres, puisque comme c'est une script, toutes les lettres sont liées, donc il y a des formes, chaque lettre existe en 4-5 formes, sachant si elle est au début du mot, à la fin du mot, au milieu d'un mot, donc en fait c'est un travail assez complexe au niveau création typographique. Et après, ce qui était intéressant, c'est aussi d'être dans ce contexte de Chaumont, ou de ce projet qu'on a fait sur ce journal mural. Ensuite, on a pu le valoriser en tant que tel aussi, soutenu un peu par le Signe et par la ville de Chaumont. Et donc, il y a eu une petite expo pendant la Biennale. Et surtout, on a fait du coup, on a lancé le caractère de manière libre.
Ouais.
Et comme en plus c'était soutenu essentiellement par l'argent public, ça nous semblait assez cohérent de rendre ce travail-là.
Ouais.
Et finalement, ce qui est assez intéressant, c'est que ces panneaux, ils disparaissent de plus en plus de Chaumont.
Ah ouais.
Et donc finalement, c'est une manière aussi de garder une trace de tout ça. Et que quand il n'y aura plus de panneaux, il n'y aura plus vraiment de traces. Et là, du coup, c'est un peu gravé dans le marbre. Et donc c'est assez intéressant finalement de se dire que c'est presque une question patrimoniale d'avoir sauvgardé quelque chose comme ça.
Avant qu'il disparaisse.
Et puis après, c'est assez marrant parce que en local, il y a pas mal de lieux qui sont mis à l'utiliser. Et puis on le retrouve quand même régulièrement dans des petits projets à droite à gauche en France.
Parce qu'on peut le trouver sur le site de la NRT, ouais, c'est ça, ça.
Ouais. Mais qui déjà avait, je sais pas s'ils l'avaient encore ouvert, leur, ils ont une section fonte maintenant, ouais. Ils avaient, comme ils avaient déjà fait plusieurs projets comme ça de dessin dans différents contextes, et donc là voilà, c'est la NRT qui fait la diffusion de ce, qui permet comme ça une diffusion facilitée de ce caractère.
Ok, trop bien, ouais, il est vraiment cool. Je vais aller vers les questions de la fin si ça te va. Est-ce que tu écoutes de la musique en travaillant?
Ouais, pas mal.
T'écoutes quoi?
Bah, je suis surtout sur Radio Nova. Comme ça, c'est vrai que ça me permet de pas trop réfléchir non ouais. plus, parce que sinon, c'est vrai que si je commence à aller, j'ai des playlists sur YouTube ou autre, mais oui. ça risque de se perdre et de passer une demi-journée à découvrir des artistes ou à... Donc voilà, j'aime bien ce côté un peu éclectique. Okay. Mais sinon, après, moi, je suis plutôt de culture assez rap, hip-hop.
Ok.
Voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre sur le podcast?
Ouais, ben je réfléchissais un peu, je me disais que Nicolas Filoc, ancien Forme Vive, c'est quelque chose, quelqu'un dont son travail je le trouve très intéressant, mais puis je pense que je me retrouve dans pas mal de choses, hein, et ça clignote,
okay.
donc c'est des choses, et puis Bonne Frite aussi, parce que ça ouais. m'intéresserait aussi, c'est aussi
ouais.
un affichiste plasticien qui serait intéressant à entendre okay. parler.
Et est-ce que tu es d'accord que pour la... Enfin, quel typo tu veux que j'utilise pour la cover de ton épisode?
Je pense que sur mon script, enfin, effectivement, serait script. Assez... Okay. Des fois, j'en ai un peu marre de l'avoir, ouais. mais c'est quand même assez cohérent.
Okay. Trop bien. Merci, Timothée, pour ton partage.
Bah, merci. À bientôt.
À bientôt.